Exemple à suivre ou pas.
Aujourd'hui, quand quelqu'un de petite taille vient te demander ce qu'il peut faire pour améliorer sa vie, que lui réponds-tu ?
Que la taille n'a rien à voir avec ce qu'il fera de son existence. On ne change pas ce que l'on est. Par contre, on peut toujours changer ce que l'on en fait. Je lui répondrai : on se fiche de ta taille ou de ta couleur. Oublie ça et sois toi-même. C'est un peu la même chose avec ceux qui viennent me demander comment faire pour devenir célèbre. Ce n'est pas une fin en soi. On ne fait pas ce métier pour être connu, mais pour vivre et échanger. Être reconnu n'est qu'une conséquence de l'affection du public. Ce n'est pas un job. À ceux qui m'interrogent, je conseille toujours de choisir ce qui leur plaît vraiment, même s'ils sont les seuls à y croire, et de prouver aux autres qu'ils auraient tort de passer à côté. Je me souviens d'un jeune garçon de 11 ans qui voulait à tout prix me rencontrer. Achondroplase comme moi, il est venu au spectacle avec ses parents. Il avait un visage magnifique et un vrai regard. On a discuté un moment et je sentais bien qu'il était rempli d'envie, ce qui est à mon sens le meilleur moyen de bien démarrer sa vie. Je me suis quand même permis de faire remarquer à ses parents qu'il lui faisait porter des culottes courtes, ce qui ne l'aidait pas à avoir l'air plus grand. J'ai modestement osé leur dire qu'à mon avis, il ne devait pas l'habiller comme un enfant en bas âge. Je lui ai suggéré de s'habiller comme un mec, à sa façon, librement, parce qu'à son âge, il n'était plus un bébé. Les parents étaient tout émus, et je crois que mes mots ont trouvé un écho en lui. J'ai essayé de lui dire qu'il devait foncer sur le chemin de sa vie.
Tu penses que le fait d'être petit est plus difficile à vivre pour un homme que pour une femme ?
Je sais qu'il existe des a priori qui se dressent comme des murs. Depuis que je suis en âge de comprendre ce que je suis, je me rends compte que l'on protège davantage une fille alors que, dans la même situation, l'homme se heurte à l'image culturelle de ce que doit être un homme. Il n'y a pas que les femmes qui affrontent des clichés. Pour une petite femme, il y a le côté mignon, poupée à protéger. Mais on ne dit pas d'un homme petit qu'il est mignon. Dans l'inconscient collectif, un homme, c'est grand et fort. Et une femme, c'est petit et fragile. Les stéréotypes ont la vie dure. Les raccourcis sont souvent réducteurs. Et on pense plutôt qu'une femme a envie d'être protégée par un homme. Un homme sera beaucoup plus sujet de moquerie s'il est question de taille, de carrure ou de puissance. Benoît, mon mari, est grand. On se moque moins de lui et de moi tels que nous sommes que si nos tailles étaient inversées. Après, ça n'empêche pas les gens de se poser des questions. Ce mec est taré de se taper une nana d'1m32. Il y en a pour penser que c'est forcément de la perversité. Il faut savoir que ces réactions désolantes et minables existent et peuvent tous nous atteindre. Même si moi, sans aucun jeu de mots, elles me passent au-dessus.
Le rejet de la différence est souvent le moyen auquel recourent les esprits faibles pour se sentir exister. Si quelqu'un de petite taille venait te voir en te disant qu'il souhaite exercer le même métier que toi, quel conseil lui donnerais-tu ?
Ce que je dis à tous les mômes qui viennent me voir, qu'ils soient grands, blancs, noirs, jaunes ou rouges, il faut d'abord qu'ils sachent parfaitement eux-mêmes ce qu'ils veulent. Sauf s'ils sont gaulés comme des dieux ou des déesses. Et de toute façon, cela ne dure qu'un temps. Il faut qu'ils écrivent ce qu'ils ont envie de jouer, qu'ils créent ce qu'ils veulent devenir. Ils doivent le faire parce que personne ne le fera pour eux. Il y a bien sûr des émissions qui révèlent les talents, comme The Voice, où la France a un incroyable talent, à laquelle ils peuvent se présenter. Mais la partie ne sera pas gagnée, parce que s'en sortir n'est pas évident, et qu'à part quelques exceptions, on n'entend généralement plus parler de ceux qui y participent, même s'ils gagnent. À quelqu'un qui vient me voir, je dis qu'il ne faut pas simplement vouloir faire ce métier pour suivre un exemple, et surtout pas le mien, ils doivent tenter l'aventure parce qu'ils ont un vrai truc à offrir.
L'exemple ne peut renforcer que quelqu'un qui tient déjà debout par lui-même.
Complètement. Quand on entend des mômes de banlieue dire « Je veux gagner de la thune, ce que fait Jamel, moi, je peux le faire », eh bien non, c'est faux. Jamel a une vraie sincérité, une vraie profondeur. Il a bossé pendant des années avant de s'en sortir, et il a un sacré talent. Tous les petits beurs de banlieue ne deviennent pas Jamel. Toutes les personnes de petite taille de France ne vont pas devenir Mimi Mati. Toutes celles et tous ceux qui pensent qu'écrire des romans comme les tiens est facile n'ont qu'à essayer. Il faut avoir un vrai truc derrière. Et le talent fait partie de ce truc.
À quel moment t'es-tu dit que tu l'avais vraiment, ce truc? En étais-tu convaincu dès le départ?
Dès mes débuts, j'ai eu la chance que des gens croient en moi. À partir du moment où j'ai choisi ce métier, si Fugain m'a accepté dans son atelier, c'est qu'il était convaincu que je pouvais apporter quelque chose. Après, il y a eu ma rencontre avec Jean-Claude Martin, le metteur en scène de Café Théâtre qui m'a encouragé à faire mon propre spectacle en me promettant qu'il le produirait. À l'époque, ça coûtait 3 francs 6 sous. Et ça rapportait 3 francs 6 sous. Mais cela m'a permis d'exister. La première fois que j'ai su que je ne m'étais pas trompée, c'était avec mon spectacle au point virgule. Elle voit des géants partout. Mes parents étaient venus y assister et il y avait la queue jusqu'à la rue des Blancs-Manteaux. Jean-Claude Martin est allé chercher ma maman et a dit en lui montrant la file « Regardez tous ces gens qui sont là pour votre fille !» À partir du moment où le public se met à se déplacer et à payer pour te voir, tu te dis d'abord que c'est peut-être juste par curiosité. Et puis tu commences à y croire. Quand Philippe Bouvard est venu me chercher pour participer à son émission, le théâtre de Bouvard, je ne me suis jamais dit que je l'intéressais parce que j'étais un phénomène de foire. En fait, il avait lu une critique dans Le Figaro qui recommandait d'aller voir mon spectacle. Là, je me suis fait la réflexion que je n'étais plus toute seule. Il y a d'abord eu une première petite marche où les gens commençaient doucement à y croire, mais il me fallait faire mes preuves. Avec Bouvard, c'était une autre petite marche, un peu plus haute. À ce sujet, Philippe Bouvard m'a confié une anecdote il n'y a pas très longtemps, qu'il a aussi racontée dans l'un de ses livres. Quand il avait parlé de m'inviter à une heure de grande écoute, la direction de la chaîne de l'époque s'était montrée très critique. « Vous n'allez pas mettre une naine à l'écran ?» Ce genre de réaction a toujours existé. À l'époque des Fugues à Fugain, les samedis après-midi sur TF1, on faisait des intermèdes entre des feuilletons comme les Mystères de l'Ouest. Je me souviens d'une critique qui travaillait à France Soir ou au Figaro. Son papier disait « Comment peut-on montrer un gnome difforme à l'écran ?» C'est drôle, parce qu'aujourd'hui, je suis très amie avec quelqu'un de sa famille. Mon père avait répondu à cette journaliste par une lettre bien sentie à sa manière, signée « Le père du gnome difforme ». Elle ne s'est pas excusée, mais je l'ai recroisée depuis. Ce n'est pas moi qui suis la plus mal à l'aise.